Donc d'abord, je vous remercie. Hein. Je remercie à la fois le Collège Sévigné, les Belles Lettres et le programme Dialogos d'avoir organisé cette journée qui me permet de dialoguer, puisqu'il y a beaucoup de choses hein, dans les questions qui ont été posées, dans votre exposé, qui vont rentrer oui, en dialogue peut-être avec mon exposé. Et pour commencer, je voudrais m'expliquer un peu du titre paradoxal, voire provocant, donné à ma communication. Bon, d'abord, ça tient au fait que c'était un petit peu à bâton rompu que ce titre s'est décidé lors d'une discussion ici même. Mais il y a quand même une explication à cela. Donc, Platon n'est pas l'inventeur des Socraticoi Logoi. Il s'inscrit dans un genre, et qui plus est, dans un genre qui n'est pas nécessairement dialogué. Et là, je renvoie à l'apologie ou au banquet, qui faisait partie du genre des Socraticoi Logoi, et qui n'obéissent pas, à strictement parler, à la forme dialoguée. Mais Platon invente pourtant le dialogue, c'est-à-dire que c'est la conjonction de la forme conversationnelle par questions et réponses avec la méthode d'interrogation socratique qui va inspirer les définitions tardives du dialogue comme genre. Et donc quand on trouve des définitions du genre dialogue au deuxième siècle après Jésus-Christ, hein, la première définition du genre dialogue, on a parmi les trois éléments qui sont les topoia, la lexis appropriée, cet élément-là qui est que c'est un logos qui repose sur des questions et des réponses. Donc forcément, il y avait quelque chose de parfaitement provoquant à dire que le dialogue n'est pas une question de forme, alors même que c'est la forme dialoguée qui inspire la définition du genre dialogue. Mais, et c'est là où j'en veux venir, l'œuvre de Platon excède toujours la définition qu'elle a inspirée. On a donc des dialogues qui n'obéissent pas à cette forme. J'écarte délibérément ici l'apologie et le banquet, puisque je pense que c'était des formes qui appartenaient au genre logoi socraticoi. Mais on peut penser au timé, où on a d'abord une conversation et puis ensuite un long exposé sur la physique, ou encore le ménexène ou le phèdre, où on a des discours épidictiques qui sont inscrits dans le tissu du dialogue. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que le Gorgias, à mon avis, permet d'étudier les limites du dialogue comme forme pour dégager l'essence du dialogue comme méthode. Et c'est vrai que c'est un peu piégeux cette communication, parce que dialogue, ça veut dire le genre, dialogue c'est la forme par question et réponse, et dialogue c'est la méthode dialectique. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on dit dialogue, on dit des choses très différentes. Donc là, hein, ma question c'est qu'est-ce qui demeure de la méthode du dialogue quand la forme par dialoguer par question-réponse est omise, entre parenthèses, ce qui arrive dans le Gorgias, on en parlait à l'instant, quand par exemple Socrate monologue parce que Calliclès refuse de poursuivre l'entretien, mais qui arrive à d'autres moments, et c'est pas le seul monologue, entre guillemets, de Socrate dans ce dialogue-là. Donc, et pourquoi le Gorgias plus que d'autres dialogues? D'abord parce que le Gorgias ne fait pas que définir la rhétorique, comme vous l'avez dit, il la met en scène. Et donc, il montre notamment dans la façon dont les interlocuteurs parlent qu'il ne suffit pas d'interroger ou de répondre pour faire de la philosophie, hein, pour dialoguer à la manière de Socrate. Et ça, c'est ce que je montrerai dans la première partie. Ensuite, et j'insiste, je montrerai ça dans un contexte historique qui fait que dialegestai, ce n'est pas une forme philosophique au départ, c'est une forme héristique. Et donc le problème est quand même de distinguer aussi le dialegestai de Socrate d'autres dialegestai qui ne sont pas philosophiques. Ensuite, parce que le Gorgias analyse l'essence de la rhétorique et qu'il ne définit pas la rhétorique formellement. C'est-à-dire que la rhétorique ne se définit essentiellement dans le rapport du locuteur à son public, et ce rapport, c'est la flatterie, et ça, ce sera ma deuxième partie. Et à partir de là, hein, on comprend que le dialogue, c'est-à-dire la méthode du dialogue, ne se définisse pas non plus formellement, pas plus que la rhétorique ne se définit formellement, on ne va pas définir le dialogue formellement. J'essaierai de montrer dans une troisième partie comment, au lieu d'être un rapport à un public, le dialogue, c'est justement un rapport à soi, ce que vous disiez, un rapport à soi, mais par la médiation de l'autre, qui est obligatoire, cette médiation de l'autre. Et ce que j'essaierai notamment de montrer, et là je reviendrai à ce passage dont il était question, qui est le silence de Calliclès et ce que dit Socrate, ce dialogue n'est pas simplement réfutatif, il est véritablement, il construit quelque chose de positif, et c'est pour ça que le Gorgias est l'un des dialogues où il est le plus question de vérité, très paradoxalement, c'est-à-dire qu'on a à la fois la thèse de Socrate qui dit je sais que je ne sais pas, et ce que je dis est vrai, et comment on peut faire tenir ces deux choses ensemble? Pourquoi? Parce qu'il y a justement dans l'homologia que requiert le dialogue la possibilité de construire une thèse, et pas simplement de réfuter des thèses. Et ça, c'est ce que j'essaierai de montrer à partir de ce passage qui a été évoqué par Anne-Marie Favreau. Et donc, il y a bien évidemment une grande ligne qui tient mon propos, c'est que il faut rompre, enfin, il faudrait, peut-être, c'est pas sûr, rompre avec l'idée suivant laquelle Socrate ferait bon usage des formes rhétoriques et que ce serait ce bon usage qui justifierait l'insertion dans le dialogue de formes rhétoriques. Et ça revient un petit peu, donc c'est là où je rejoins le thème de la journée, c'est-à-dire que philosophie et rhétorique ne s'opposent pas comme deux formes de discours qui seraient le dialogue d'un côté et le discours de l'autre. Alors j'en viens un peu à ma première partie où j'essaierai de montrer que la forme dialoguée, c'est un critère insuffisant pour définir le dialoguestai socratique. Et je commence par rappeler ce qu'il en est de la doxa sur l'hélènkos, c'est-à-dire cette façon, l'hélènkos ça veut dire réfutation, cette façon propre à Socrate de procéder, hein, qui est très caractérisée dans la littérature sur Platon, et où on a donc, là je m'appuie sur ce que dit Vlastos tout simplement, je reprends ce que dit Vlastos en vous donnant des quelques références dans les dialogues. Donc, Socrate est dans la position de celui qui interroge, et ça, on le met en lien avec l'ignorance socratique. Alors là, je fais une première parenthèse, hein, parce que l'ignorance socratique, ça voudrait dire que Socrate n'a pas d'opinion. Non, Socrate n'a pas de Sophia. Et là encore, ne pas avoir de Sophia, ce n'est pas ne pas avoir d'opinion, parce que qui a une Sophia dans les dialogues? Les sophistes, principalement, les poètes. Les hommes politiques qui pensent savoir. Donc c'est ça la Sophia. Dire qu'on n'a pas de Sophia, c'est pas dire simplement, c'est dire que on ne prétend pas pouvoir enseigner ce que d'autres prétendent enseigner. Et en l'occurrence, l'arrêter. Donc ça c'est un premier point. Donc, mais on voit que on associe la position de Socrate à la position de celui qui interroge en raison de son ignorance. Et d'ailleurs. Je continue, c'est que l'ignorance, c'est je sais que je ne sais pas, et donc c'est quelque chose qui est relatif, et c'est pas je ne sais rien non plus, hein. Je sais que je ne sais pas ça, je sais que je ne sais pas telle chose. Et là, je vous renvoie sans développer au passage du Théétète qui est bien évidemment toujours mobilisé quand il est question de l'hélènkos socratique sur je suis moi-même sans agonos sophias, sans rejeton de sagesse, et c'est pour ça que j'ai cette possibilité d'interroger. Deuxième caractéristique de l'hélènkos, l'interlocuteur se doit de répondre brièvement. Et là, vous faisiez allusion au Protagoras, donc je renvoie aussi à ce passage du Protagoras, où Socrate menace de quitter l'entretien si Protagoras continue à parler longuement comme il le fait. Mais je vais revenir sur ce passage. Ensuite, l'interlocuteur se doit de répondre à la question posée. Ça, c'est le critère de pertinence. Et là, j'ouvre encore une parenthèse, c'est-à-dire qu'on croit simplement que c'est renoncer à la macrologia, pas du tout. En fait, ce qui se passe dans le Protagoras, quand on analyse ce qui se passe dans le Protagoras, c'est que Protagoras est en train de détourner le sujet. Et donc là, hein, ce que dit Socrate, c'est que si tu réponds, hein, si tu réponds pas à la question que je te pose, j'arrête. C'est pas simplement une question de macrologia. La macrologia, là, elle sert à pointer le fait que l'interlocuteur est en train de s'emparer de la parole pour reprendre le dessus sur le public. Enfin, dernier trait de l'Hélène Koz, la réfutation se fait sur la base des croyances avancées par l'interlocuteur, ce qui est bien évidemment là encore en lien avec l'ignorance socratique, c'est-à-dire que puisque Socrate n'avance rien, forcément tout ce que va produire l'Hélène Koz se fera sur la base de ce que son interlocuteur aura avancé. Alors maintenant, quand on regarde l'Hélène Koz dans le Gorgias, on a l'impression que c'est un dialogue parfaitement dans les clous, puisque Socrate, dans le Gorgias, exige que son interlocuteur réponde avec pertinence à la question posée. Je vais peut-être aller vite, hein, je vous ai donné les passages, donc on trouve ça en 448e, c'est Polos qui commence à dire « Ah, mais c'est la plus belle des choses, la rhétorique », Socrate dit « Bon, ça va, on arrête là, hein, tu réponds, je te demande pas si c'est la plus belle, je te demande ce que c'est ». Donc ça, c'est le premier point. On trouve, juste en suivant, et c'est pour ça que je dis que la macrologie, le reproche de macrologie est lié au reproche de pertinence. Socrate qui dit « Bon, Gorgias, on laisse Polos, on discute tous les deux, mais renonce à la macrologie, s'il te plaît ». Et donc c'est cette question-là qui est en jeu. Dans le Gorgias, ensuite, Socrate exige de Calliclès qu'il dise ce qu'il pense. C'est en 495a. Où il dit « Tu vas rompre notre pacte si tu ne dis pas ce que tu penses ». Et donc la réfutation se fait, hein, sur la base des éléments avancés. Alors là aussi, j'ouvre une parenthèse pour le dernier. C'est-à-dire qu'on croit là que quand Socrate dit à Calliclès « Tu dis pas ce que tu penses », ce qu'il est en train de faire, c'est de parler de sa méthode. Mais en fait, il ne parle pas de sa méthode. Il parle de la prétention de Calliclès à être franc, c'est-à-dire à être ce monsieur qui ne fait pas du politiquement correct. Et justement, ce qui est intéressant ici, c'est « Toi qui prétends ne pas être politiquement correct, là, tu fais défaut à ta parole. » Et pas simplement, c'est pas juste une question de méthode, ici, ce qui se joue, c'est le rapport qu'a Calliclès à son langage. Et donc, c'est une façon de dire, Calliclès, tu es le premier à te soumettre à la honte, alors que tu prétends être celui qui est le plus imperméable au regard d'autrui. Et donc, si vous voulez, le Gorgias semble une sorte d'exemplaire de la méthode socratique, ce qui rend encore plus étrange les passages où Socrate déroge en apparence à cette Hélène Koz. Et là, je vous ai donné les références à deux passages où il dit « C'est vraiment étrange, alors que je vous dis de ne pas faire ça, je le fais moi-même. » Donc, il y a ce « atopon ». Bien évidemment, ça se justifie, je ne vais pas rentrer dans les longues justifications, et ce ne sont pas non plus les deux passages que j'ai, auxquels je fais référence, les seuls passages où Socrate parle longuement, puisqu'il y a aussi ce passage où Calliclès se tait, et ce passage, le fameux mythe final. J'en viens à ma troisième partie dans cette première partie, c'est que ni la brachylogie ni l'Hélène Koz ne sont des formes strictement philosophie. Quand on regarde ce qui se passe dans le Protagoras, le fameux passage auquel je vous renvoie, il est très intéressant de voir que l'un des arguments de Socrate pour que Protagoras réponde, c'est qu'il est très fort en brachylogie. Et qu'on a là des termes techniques qui sont macrologia, brachylogia, que Socrate utilise de façon tellement courante. C'est-à-dire qu'il emprunte ça à un vocabulaire existant. Il n'est pas en train d'inventer ces termes-là, il est en train de les emprunter. Et il dit, ce qu'on dit sur toi, c'est que tu affirmes être aussi bien capable de parler brièvement que longuement. Donc la question, elle est que... Donc l'argument de Socrate à ce moment-là, c'est de dire, ben voilà, maintenant tu me montres que tu parles brièvement. Là, tu fais de la macrologie, moi je te demande de faire de la brachylogie. Et il y a un débat contradictoire dans le Protagoras à ce moment-là avec le public. Il dit, y a un qui dit « Mais non, Protagoras, après tout, c'est plus prestigieux, il faut lui laisser le choix. Mais non, mais Socrate a raison, etc. » Et comment on sort de ce conflit-là? en laissant à Protagoras la possibilité d'interroger ce dont on parlait là. Et c'est ce qui se passe aussi dans le Gorgias. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive dans une impasse, qu'est-ce qu'on fait? On laisse à l'interlocuteur la possibilité de prendre la place de Socrate. Mais pourquoi? Je ne pense pas que ce soit uniquement parce que il y aurait la place de Socrate à prendre. C'est parce que dans la tradition de l'héristique, quand même, celui qui interroge, c'est celui qui réfute. Donc dans l'esprit de l'interlocuteur, pourquoi est-ce que Socrate parvient à réfuter? Parce qu'il est dans la bonne position de parole. Et donc laisser à l'autre cette position-là, c'est en gros dire, bon, tu vois, à toi, vas-y, fais l'expérience de m'interroger. Or, on voit bien, et le Gorgias en est un exemple flagrant, c'est que dans le Gorgias, c'est pas parce que Polos interroge qu'il arrive à faire du Socrate. Ça marche pas du tout. Socrate est obligé de lui souffler les questions. Et on voit bien aussi comment la façon de procéder dans l'interrogation est une façon de procéder rhétorique, c'est-à-dire comment il y avait une technique rhétorique de l'interrogation. C'est-à-dire que l'interrogation, dans ce cas-là, c'est pas que la philosophie. Le dialogue, c'est pas que, enfin, en ce sens-là, c'est pas que la philosophie. Et donc, c'est, à mon avis, très important de voir que l'héristique précède les lynkos socratiques, que Protagoras est l'inventeur de l'héristique, que cette héristique, c'est un échange bref par question... L'héristique, c'est... l'échange bref par question et réponse où on amène l'interlocuteur à se contredire, enantiologein. Et donc, et là, je vous renvoie le Tidème qui est un dialogue qui met en scène la façon dont on contredit héristiquement quelqu'un. Et donc, le problème pour Platon, c'est pas simplement d'opposer le discours au dialogue, c'est de distinguer la pratique socratique du dialogue de pratique dialogique, enfin, je sais pas comment les appeler, enfin, de pratique du dialogue existante et qui, elles, ont une visée, qui ont pour visée d'anéantir l'adversaire, quand même. Hein, c'est... Et donc, quand on regarde ce qui se passe dans le Gorgias, eh bien, on a donc à la fois un exemple de brachylogie de Gorgias au début du dialogue, où Socrate, quand il décide d'interroger directement Gorgias, lui demande donc d'éviter la macrologie. Et pour Gorgias, c'est pas juste faire plaisir à Socrate, c'est l'occasion de démontrer qu'il maîtrise bien la brièveté. Et là encore, on voit dans cet épidéique 6, on peut trouver un parallèle avec ce qui se passe au début de l'Hippias mineur, c'est-à-dire qu'il y a deux mouvements dans l'épidéique 6, qu'elles soient sophistiques ou rhétoriques. Un premier moment qui est le discours long, et un second moment qui est le jeu de questions et réponses, où l'orateur montre qu'il est capable de répondre à toute question. Mais il y a un enjeu direct, c'est-à-dire que, sans parler de l'assemblée, au tribunal, on pense toujours hein, aux deux discours qui s'affrontent et on oublie qu'il y avait la possibilité pour l'accusé ou l'accusateur de prendre la parole et hors temps de parole, hors temps du discours, pour interroger directement son adversaire. Donc il y avait aussi un enjeu stratégique qui consistait à former les gens pour qu'ils puissent démonter, dans le cas du tribunal ou de l'assemblée, la personne qui s'oppose à vous. Hein. Donc, c'est aussi rhétorique, les questions et réponses. Et bon, pour l'interrogation de Polos, je vous en ai parlé, quand on l'analyse en particulier, hein, on voit que Polos essaie par ses questions d'arriver à une définition de la rhétorique qui va obtenir l'accord de l'auditoire. Donc c'est, là encore, c'est la visée de l'interrogation que mène Polos quand il interroge Socrate, c'est une visée qui est allocentrée, ça vise à convaincre le public qui est là, et je vais y revenir dans la définition de la rhétorique comme flatterie. Et donc voilà, hein, pour dire en bref, c'est un peu, bon, c'est le dialogue qui n'est pas uniquement une question de forme, c'est déjà, hein, il faut pouvoir distinguer le dialégestai héristique, rhétorique, du dialégestai socratique. Alors la rhétorique n'est pas une question de forme, Je commencerai par faire une remarque, c'est que quand on dit que la rhétorique dans le gorgias est une flatterie, on n'a jamais l'impression qu'il s'agisse d'une définition. Et c'est peut-être ce qui nous empêche de voir sa pertinence. C'est-à-dire que quand on dit que la rhétorique est une flatterie, on entend les hommes politiques sont des démagogues, et ça c'est un jugement, c'est pas une définition. Or, ce que j'essaierai de montrer dans cette partie, c'est que la flatterie constitue la définition intrinsèque de la rhétorique du point de vue de Platon. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il n'y a pas de rhétorique sans public. Et ça, quand on regarde la définition que donne Gorgias, je vous ai donc donné la référence, hein. Donc il précise petit à petit, hein, il est amené par Socrate à préciser ses définitions. Donc là, il vient de dire que c'était un art périlogous, qui porte sur les discours, dialogon, qui porte sur les discours par l'entremise des discours, et là il précise que c'est un art de la persuasion devant toutes sortes d'assemblées politiques. Vous avez ça en... ça y est, je me perds dans mon propre exemplier. Donc c'est en 2.1, hein, 452e. Ce qui m'intéresse, c'est en dicasterio, en bouleterio, en ecclesia, en allo sulogopanti. Pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'il y a cette idée que ça se fait devant, ça se fait pas avec en et pas... Hein, on n'est pas en train de dialoguer avec ce public. Et donc, la rhétorique, c'est une situation d'agone qui s'exerce devant les assemblées. Alors, cette dimension d'agone, c'est ce qu'on trouve plus particulièrement dans le Phèdre. Et il y a trois termes. Il y a l'orateur, son adversaire, et le public devant lequel cela se joue. Donc, premier point, on ne dialogue pas avec le public. Mais deuxième point, quand il interroge son adversaire, l'orateur cherche d'abord à convaincre son public. C'est pas ça qui intéresse. Finalement, l'orateur est peu intéressé par le fait qu'il aurait à convaincre son interlocuteur, pourvu qu'il convainque le public qui est là. Donc c'est un faux dialogue, puisque je parle à X pour convaincre Y, et peu importe que je convainque X ou pas. Donc, premier critère de distinction entre rhétorique et philosophie, c'est que le dialogue rhétorique se joue à trois. L'orateur, son adversaire et le public, alors que le dialogue socratique se joue à deux, quelle que soit la forme.
Il y a un public quand même.
Mais le public, justement, je vais y venir à ce point. Non, parce que la façon dont le public est instrumentalisé dans le Gorgias par Socrate est très intéressante. C'est-à-dire que dans le Gorgias, le public, quand Socrate se tait, quand Callicles se tait, pas Socrate, le public devient l'interlocuteur de Socrate. C'est la condition de poursuivre, de parler seul. La condition de parler seul, c'est que le public soit l'interlocuteur et que quelqu'un intervienne pour contredire Socrate. Et donc on a quelque chose qui est complètement différent. Soit Callicles se tait, et on va voir que c'est plus compliqué que ça, mais le public doit répondre. Le deuxième point qui fait que c'est essentiel, hein, à cette définition de la rhétorique comme flatterie, c'est que le nombre du public, hein, c'est pas une personne, c'est pas deux, c'est pas trois, constitue en assemblée de non-spécialistes. Et donc parler devant une foule, c'est parler devant des gens qui ne savent pas. Et ça, c'est très important dans la question de la persuasion, c'est au centre du Gorgias. C'est que pour persuader, hein, il ne suffit pas de dire que c'est un art de persuader. Gorgias sait très bien qu'il ne peut que persuader que des gens qui ne savent pas de quoi il est question. On ne persuadera pas le médecin. Hein. On persuadera, s'il faut y lire, hein, c'est l'exemple récurrent que je vous ai donné, c'est que donc Socrate... Il y a cette thèse gorgienne suivant laquelle la rhétorique est supérieure aux autres arts puisqu'elle parvient à persuader là où le spécialiste échoue. Et il y a donc cet exemple du médecin qui ne serait pas élu médecin devant une assemblée face à un orateur s'il le voulait. Hein. Donc ça, c'est l'exemple de Gorgias pour dire que la rhétorique est plus forte que tous les autres arts. Il utilise là l'expression « en pleitei ». Et Socrate va renverser cet argument de Gorgias dans le dialogue en utilisant cet exemple, en le renversant avec l'exemple du tribunal d'enfants, c'est-à-dire faire élire, faire choisir entre un cuisinier et un médecin des enfants. Forcément, on va choisir le cuisinier. Mais ces enfants, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'assemblée, c'est ce nombre-là. Et c'est ce que dit d'ailleurs explicitement Socrate, là je vous l'ai dit, quand il dit qu'il s'agisse d'enfants ou devant des hommes, en andrasi utos anoetos osperoi paideis, ou devant des hommes qui sont aussi insensés que des enfants. Or, forcément, vous n'êtes pas spécialiste de tout. Il y a bien évidemment la question de savoir si la politique est une spécialité. Ça, c'est un vrai problème qui est notamment abordé dans le Protagoras. Mais dans la façon dont les choses se règlent dans le Gorgias, on voit que la situation première de la rhétorique, c'est de parler devant des gens qui ne savent pas. Donc, un public, des gens qui ne savent pas. Et dernier point, passons à l'orateur. Est-ce que l'orateur, c'est ce dont il parle quand il persuade la foule, ou fait-il semblant de le savoir? Et c'est quand même tout l'enjeu de la réfutation. C'est-à-dire qu'on commence à demander à Gorgias, est-ce que tu connais le juste? Ah ben oui, bien sûr, je l'enseigne aussi, oui, sans problème. Ce qui est démenti de facto, parce que ni Calliclès ni Polos ne connaissent le juste, enfin, dans leur comportement même, ils ne le maîtrisent pas, mais même sans parler de leur comportement, la première chose que dit Polos, c'est pas la peine de le savoir. C'est pas la peine de le savoir, ça veut dire qu'on ne me l'a pas enseigné, puisque je trouve que c'est un savoir qui ne vaut pas la peine d'être mis en exercice. Donc, c'est vraiment toute la question de la justice comme objet de la rhétorique, mais pas simplement. C'est-à-dire que c'est vrai que le débat du Gorgias se centre au départ sur cette question de l'objet de la rhétorique, et on voit qu'à chaque fois les interlocuteurs butent sur ce rapport de la rhétorique au juste, qu'il s'agisse de Polos ou qu'il s'agisse de Calliclès, qui prétendent chacun parler plus franchement et donc vraiment avoir le rapport le plus direct à ce juste-là. Mais ce que montre le Gorgias, c'est que l'orateur est ignorant plus généralement du bien, et qu'il y a une confusion chez Polos entre la notion de toute puissance et la notion de bien, et chez Calliclès il y a une confusion entre la notion de bien et la notion de plaisir. Et c'est là où se greffe la dialectique du plaisir, c'est que l'orateur va faire plaisir à la foule pour se faire plaisir, parce qu'il est ignorant lui-même de ce qui est bon. Et tout le dialogue montre que connaître le bien, c'est savoir qu'on gouverne dans l'intérêt des gouvernés, pas dans son intérêt propre. C'est aussi l'une des démonstrations du dialogue. Donc ici, on a une dialectique qui fait que forcément, c'est une flatterie, parce que dans l'ignorance où il est de lui-même, et donc dans l'ignorance du bien fondamental qui serait savoir ce que vraiment veut dire gouverner, l'orateur va séduire son public pour pouvoir obtenir son propre plaisir. Et c'est ce qui amène à une vraie dialectique de l'esclave. Dans la quatrième partie du dialogue, Socrate se moque de Calliclès qui est amoureux du démos et dit qu'il ne peut pas dire autre chose que ce peuple dont il est amoureux. Et à la fin du dialogue, après tout ce long excursus sur la politique, qu'est-ce que la vraie politique, Socrate lui dit qu'il ne pourra jamais, qu'il n'y a pas d'autre art de la rhétorique que celui de se rendre semblable à ceux que l'on veut persuader. Et ça, c'est le passage que je vous ai donné. C'est-à-dire que l'orateur est forcément dans une relation d'imitation, et même là, ça va plus loin. Socrate dit, c'est pas simplement mimétène, imitateur qu'il doit être. Autophios homoion toutois, il doit être complètement de toute sa nature identique, semblable à ces gens qu'il veut persuader. Et donc, peut-être que je vais devoir m'arrêter, et tant pis pour le reste, la rhétorique, c'est intrinsèquement une flatterie, parce que l'orateur est le premier à ignorer ce qui est bon pour lui, et qu'il va donc instrumentaliser son auditoire dans son intérêt. Et ce qui, finalement, pourrait définir la rhétorique, sans parler de la forme, puisqu'on a vu que ça peut être toute forme, c'est que l'orateur se base sur à une norme extérieure avec son public à laquelle il se conforme par ignorance de lui-même. Et on retrouve là le thème de la connaissance de soi et de l'importance de la connaissance de soi, etc. Et puisque je pourrais peut-être pas aborder, certainement pas la troisième partie, donc simplement, on voit dans l'art, d'abord dans le Gorgias, que la poésie est incluse dans la rhétorique. Il y a tout un passage où on ramène, hein, on montre que à partir, dès lors qu'elle a un public, cette poésie, eh ben on peut enlever le chant, les maîtres, etc. Qu'est-ce qu'on a ? On a de la rhétorique. Donc la poésie, et surtout la poésie dramatique, c'est-à-dire dialoguer, hein, rentre dans la sphère de la rhétorique pour Socrate. Ça, c'est pour dire qu'on n'est pas dans la forme dans, avec cette définition-là. Qu'ensuite, celui qui dit qu'il faut faire bon usage d'une forme, c'est Gorgias. Qui dit la rhétorique, bah écoutez, bien sûr, moi c'est un art qui n'a pas d'objet propre, c'est pas important, il y a le logos, et puis moi j'enseigne à bien utiliser le logos, à vous d'en faire bon usage. Donc cette idée qu'on pourrait séparer l'usage de l'enseignement, c'est une idée de Gorgienne. Alors prêter à Socrate ce type de comportement, c'est ne pas tenir compte de la réfutation socratique de Gorgias, donc Gorgias. Et pour finir, donc, parce que j'arriverai pas, je vais juste revenir à ce fameux passage qui m'intéresse beaucoup dans le dialogue, qui est le silence de Calliclès, que nous avons étudié la semaine dernière, donc ce sera pas trop... Qu'est-ce qui se passe ? C'est un passage vraiment très très bien, très savamment construit, puisque Calliclès refuse de parler. Il dit, bon, maintenant, tu fais tout seul, hein. Donc Socrate parle seul, il commence par effectivement faire un dialogue fictif de Socrate avec Socrate, qui prend à partie Calliclès. Alors, donc, il y en a Socrate qui pose des questions, Socrate qui répond aux questions, et Calliclès qui est pris à témoin. Mais avant que Socrate ne fasse ça, Socrate met le public dans une certaine situation. C'est-à-dire qu'il dit, je veux bien continuer parce que la recherche de la vérité est un bien commun. Donc, nous allons faire une recherche commune. Je vais parler. Je vais exposer ce que je pense, mon opinion, à Dokémoï, et vous, vous allez m'interrompre et me contredire si jamais je dis quelque chose qui ne va pas. Donc, et le public est individualisé, hein, que l'un d'entre vous prenne la parole. Il n'y a plus une masse, hein, il y a des individus qui vont pouvoir répondre à Socrate. Cette demande, Socrate l'a fait au public, qui devient son interlocuteur, mais il l'a fait aussi à Calliclès. Calliclès, d'accord, je parle seul, mais si je dis des bêtises, réfute-moi. Or, ça modifie complètement le silence de Calliclès. C'est-à-dire que le silence de Calliclès, c'est un aveu d'échec, puisqu'il ne peut pas réfuter. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de dire que la philosophie est en échec, mais la façon dont Socrate remet Calliclès en situation d'être celui qui peut le réfuter, si tu n'es pas d'accord, si tu juges que je me contredis, réfute-moi. Or, c'est pas, il n'y arrive pas. Hein, il ne prend pas la parole pour réfuter Socrate. C'est ce qui fait qu'il reprend la parole ensuite, Calliclès. Il ne peut pas faire autrement. Calliclès reprend la parole. Calliclès reprend la parole et continue après à discuter avec Socrate jusqu'à la fin du dialogue. Et ça, on fait comme si Calliclès s'arrêtait de parler jusqu'à la fin du dialogue. Mais pas du tout. Calliclès reprend la parole. Il est contraint, non pas par la rhétorique, mais par cette structure que met en place Socrate, à reprendre la parole. Et que dit Socrate quand il expose ça ? Au moment où Socrate expose le dialogue notamment, c'est une sorte de résumé des réfutations antérieures. Et ce que Socrate va poser comme thèse, à ce moment-là, en son nom, c'est la synthèse des réfutations qu'il a menées préalablement sur ses interlocuteurs. Donc on est à un niveau métadialectique ici. C'est-à-dire, vous n'allez pas réussir à réfuter la thèse qui est issue des réfutations que j'ai menées et que j'articule. J'articule toutes les réfutations antérieures, je vous la présente, et personne, ni dans l'auditoire, ni Calliclès, ni Gorgias, ni Polos, ne se présente pour réfuter cela. Polos et Gorgias, eh bien, ils ont déjà été réfutés, ils l'ont admis. Calliclès ne l'admet pas, mais là, il finit par l'admettre. Et c'est ce qui fait aussi qu'il reprend. Et donc là, on a aussi ce passage où on a... C'est pour ça que là aussi, on peut interpréter autrement le mythe, hein, à la fin. C'est-à-dire que Socrate dit, étant donné que vous n'avez pas su réfuter le logos, c'est devenu un logos, hein, cette synthèse des réfutations, hein, c'est devenu une thèse. Et à la fin, le mythe ne fait que transposer les résultats du dialogue, puisqu'on a fait déjà la distinction de l'âme et du corps, ben on peut toujours se placer dans l'au-delà, après tout. La distinction primordiale, elle a été faite et non réfutée. C'est la distinction de l'âme et du corps. Et Socrate finit, je vous ai donné le passage en disant, la vérité, ce sera vrai, tant qu'il n'y aura pas plus vrai que ça, ça tiendra. Et donc, on n'est pas non plus dans de la rhétorique au sens où on l'entend habituellement. C'est juste une transposition ironique, puisque Calliclès, c'est un esprit fort, c'est parti de ces gens qui s'estiment au-dessus de la religion traditionnelle aussi. C'est une façon ironique de ramener Calliclès au niveau de la loi et au niveau de la cité et de la religion de la cité. Et là, je pense aussi qu'il y a un élément par rapport à l'apologie de Socrate dans ce dialogue, qui est celui qui est dans le respect de la tradition, c'est Socrate et c'est pas les autres. Donc il y a plein de jeux très complexes, mais qui font que, à mon avis, même le mythe n'est pas à être interprété comme un recours à la rhétorique pour persuader, etc. Parce que ça serait renoncer à ce qui est au principe même du dialogue, c'est-à-dire de l'accord à soi. Ça, c'est pas, j'ai pas pu le dire, mais voilà, un accord. Bon, et c'est fini. Voilà.